Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, salut à toutes et à tous et bon dimanche. On est ravis que vous ayez choisi les grandes gueules du sport, vous êtes aussi nos grandes gueules du sport pour passer ce dimanche de Pâques. Eh oui, dimanche de Pâques ensemble. Alors bon, vous êtes peut-être sur la route, en train de nous écouter, en train de partir en vacances. Vous êtes peut-être, je le disais hier, peut-être à la station-service aussi, en train de faire la queue pour faire le plein.
Ou au marché pour aller acheter les petits chocolats.
Exactement. Ou déjà en pleine chasse aux œufs.
Ou en pleine chasse aux œufs.
En train de cacher les œufs. Ça va, Sarah Pitkowski?
Très bien. Comment vas-tu, Georges?
Très bien. T'es du genre chasse aux œufs, toi?
Oui. Bah, ouais. Jeune, oui, je le faisais. Ouais. Et pour les enfants aussi. Là, maintenant, je les mange. On a plus besoin d'aller, on a plus besoin d'aller les chasser, voilà, n'est-ce pas, Fred? Ils viennent à nous, les chocolats.
Tu vas l'acheter, tu l'achètes, quoi.
Exactement.
Tu vas l'acheter, tu le manges. Tout salut, Fred Weiss.
Bonjour.
Tu aimes bien le chocolat, toi?
En fait, je voulais dire n'importe quoi, mais oui, évidemment, ouais. J'aime le chocolat.
Oui, parce qu'en fait, tu peux essayer d'être en désaccord avec des trucs
ça.
Souvent.
Oui, mais à un moment, je suis obligé de dire la vérité, malheureusement.
Face à l'évidence, qu'est-ce que tu veux dire?
Non, le chocolat était excellent en plus.
Oui, c'est bon. Ah, t'as déjà mangé du chocolat, là?
Oui.
Celui de Yann Couvreur qui a été laissé par l'équipe d'Anaïs ce matin?
C'est une forme de renard.
Ah oui. Ah, t'as mangé le renard qui était artistique, là, t'as mis la main dedans, quoi.
C'était pour moi. Hein. Ah, non, attendez, en même temps, si pour Sarah, c'est des petits, c'est logique que moi, je prenne le gros.
Pour toi, c'est un amuse-bouche, effectivement. David Douillet est avec nous. Salut, David.
Comment ça va, les amis?
Bah, ça va, et toi?
On va t'envoyer un petit renard de Yann Couvreur. Tu vas te régaler en chocolat.
En photo, par contre.
Non, David, pas très gourmand.
Hein. Non.
Non, mais moi
il y a pas
j'ai un problème à la maison.
Donc, ça va.
Ouais, David.
Ouais. Non, mais j'ai un cadenas sur le frigo, là, pour toute la saison. C'est une catastrophe.
Mais c'est lui qui a la clé. C'est lui qui a la clé du cadenas, quand même.
Non, non, c'est pas la clé. Non, je suis interdit. Interdit de frigo. J'ai pas le droit d'en approcher à moins de 5 mètres.
Mais tu sais que, David, je fais les recette de ton livre, hein. J'en ai fait quelques-unes.
Ah.
Ouais.
Alors, tu vois, c'est top. Hein.
Les granolas, là, oh là 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 là, ils étaient bons.
Ah, ils vont bien, ceux-là, ouais.
T'as choisi les choses les plus saines.
Non, parce que j'ai fait aussi la saucisse de morteau avec le chou. C'est vrai, c'était bon, mais c'est pas super diététique.
Elle dit ça avec un regard de culpabilité assumé, quand même. Ça, on adore. Pascal Dubray, là, salut Pascal.
Salut les amis.
Oh, salut Pascal.
Faire des chasses aux œufs, toi, en Savoie, là. Allez, je vais cacher un œuf au chocolat là-bas, tout là-haut, à 3000 mètres. Va le chercher, les garçons.
Écoute, je ne dis pas non, mais avec modération. Tout est dans la mesure.
Bien sûr. Bon.
Bah, t'es bien le seul, hein.
Ouais, Pascal, dans la mesure, franchement, je pensais pas entendre autant de bêtises dès ce matin.
Après, on est pas obligé de le croire.
Écoute, on est en train de parler de confiserie, de sucrerie. Je te dis que je suis dans la mesure.
Mais pas pour le reste, alors.
Et contrairement à toi, je ne mens jamais.
Donc moi, je dis des demi-vérités, je ne mens pas.
Tu l'as dit, il y a deux minutes, tu nous as dit. Il fallait que tu dises de temps à autre la vérité.
Ouais, exactement.
Je reprends tes propos.
Aujourd'hui, la vérité, rien que la vérité, Frédéric Weiss.
Mais évidemment,
les yeux dans les yeux.
Comme d'habitude, dès qu'on fait les petites bouches, les grandes gueules, pardon, je comprends toujours.
Allez, jusqu'à midi au programme de vos grandes gueules du sport à 10h sur le ring. Le cyclisme avec un Tour des Flandres, c'est Marc Maillot qui l'a dit hier. D'anthologie attendue aujourd'hui. Les quatre fantastiques sont là pour la première fois ensemble. Pogacar, Van Der Poel, Evenepoel, Van Aert. Croyez-vous à la guerre des étoiles? Votez sur le compte X des grandes gueules du sport. À 10h30, Fred, enfin une punchline NBA. Et oui, hier, il y avait un match au sommet entre Victor Wembanyama et Nikola Jokic avec le titre de MVP en toile de fond. Wemby a perdu malheureusement, mais le match était monstrueux. Mais est-ce que Wemby a déjà dépassé les frontières du basket? Tiens, on va se poser cette question. Tout à l'heure sur le buzzer, c'est le début du Masters 1000 de Monte Carlo et la saison de terre battue, et on sent Roland Garros qui s'approche. C'est dans un mois et demi, Sarah. Est-ce que le duel Sinner-Alcaraz est si évident? Tiens, oui ou non?
À l'heure où on se parle, non.
Ah, tu vas nous dire pourquoi tout à l'heure. Le zapping, évidemment, le j'y crois, j'y crois pas. Et puis le vestiaire, on va se poser cette question. Est-il essentiel de s'inspirer ou de pratiquer un autre sport que le sien? Alors que Cassandre Beaugrand, notre championne olympique de triathlon, hier a explosé le record de France du 10 km parce qu'elle s'est mise à l'atteler désormais. Bah voilà, donc elle nous inspire, comme Émilien Jacquelin qui est passé du biathlon au vélo. Également, Fred est passé du basket
au basket
dans sa carrière. Et puis événement sur RMC c'est aujourd'hui. Tiens, vous allez remporter vos places pour le match de Ligue des Champions PSG-Liverpool. C'est mercredi à 21h au Parc des Princes. On vous propose de vivre l'expérience RMC avant le match. Vous assistez aux émissions ici. Direction ensuite le parc pour assister au match avec la personne de votre choix. Enfin, vous revenez à RMC dans les coulisses de l'after pour débriefer le match en direct. Dès que vous entendez ceci, eh bien, vous aurez 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16. PSG au 7-32-16. Vos places PSG Liverpool se gagnent uniquement sur RMC. On lancera les inscriptions pour les Jeux du Sport également tout à l'heure. Vous nous envoyez des messages sur WhatsApp au 0612 424 424. Tiens, j'ai déjà Fredo qui nous dit salut les grandes gueules du sport. C'est parti pour 12 km de running en vous écoutant sous le soleil tarné. Ben, on est ravis d'accompagner Fred. Je sais qu'il y en a beaucoup qui préparent également le marathon de Paris dans une semaine. Et vous êtes peut-être là dans votre sortie. On est ravis de vous accompagner. On
espère dans les sorties longues, là.
Vous donner,
il faut se faire 3 heures au moins.
Bah, je ne sais pas, notre producteur va faire le marathon de Paris la semaine prochaine. Il est là tranquille en régie. Non, apparemment, c'est tranquille. Là, c'est l'affûtage.
Ah oui, c'est l'affûtage.
Ah,
oui.
Mais moi, j'écoute RMC Running, oui, les amis, le podcast sur les plateformes de téléchargement, les bons conseils et tout ça. Je suis devenu. Non, je suis pas venu en renard. Allez, les amis, la Ligue 1, le derby du Nord, hier soir, a mis un gros coup au suspense pour le titre.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Le coup d'envoi vient d'être donné alors qu'il y a un typho. On a eu pas mal de typhos, mais il y a un typho qui est toujours pas enlevé. Et il y a eu des fumigènes, Karine et Max, mais le toit est fermé ce soir. Attention à Fernandez Pardo qui récupère le ballon dans l'angle gauche de la surface de réparation face à Gagnou, la vitesse de l'attaquant lillois. Il y a Félix Correa dans l'axe. Oh, le pas, le but de Conan, la passe de Fernandez Pardo, deuxième poteau, les Lillois font enfin la différence à Connor Hanson, 1-0 pour Lille. Oh, attention, la mauvaise passe, c'est peut-être le deuxième but lillois. 2-0 Félix Correa, 2-0 dans le derby pour les Lillois.
Robert Isser qui bouge beaucoup, le feu vert de Monsieur Le Texier, Fernandez Pardo qui s'élance, et ça contre-pied, et ça fait 3-0 pour le LOSC. Ils ont renversé le match chalet, 3-0 à Pierre Mauroy au bout de 58 minutes de jeu. C'est terminé. Victoire nette et sans bavure des Lillois, 3-0. Lens a dit certainement adieu au titre de champion.
Aïe, 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 pour les 100 et or. Défaite cinglante et sans appel. 3-0 des Lensois sur la pelouse de leurs voisins du Nord. Le LOSC lance, donne une marge peut-être oui, définitive effectivement au PSG qui a désormais 4 points d'avance en tête de la Ligue 1 avec un match en moins en plus contre Nantes et encore 7 rencontres à jouer dont un Lens-PSG entre les deux dernières journées du championnat. Lens, attention. Voici Lille revenir à 9 points à la 3ème place. Marseille peut même revenir à 7 longueurs en cas de succès ce soir à Monaco. 20h45 à suivre sur RMC. Évidemment, les GG, je vous pose cette question. Est-ce que Lens, bon, on parlait pour la course au titre, est-ce que Lens doit désormais regarder dans le rétro, derrière? Attention, pour pas que ça revienne. Frédéric Weiss.
Évidemment.
Pascal Duprat.
Bien sûr que non.
Sarah Pitkowski.
Non.
David Douillet.
Oui.
On vous attend au 32-16, évidemment, et notamment vous, les supporters lensois. Tiens, je pourrais avoir votre témoignage ce matin. On va écouter l'entraîneur des seniors, Pierre Sage, nous parler de la course au titre ce matin. On peut encore en parler pour les Lensois?
La course au titre, c'est une chose qu'on nous fait vivre, mais vous, je vous avoue que nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est de nous qualifier pour la Ligue des Champions. Lille se rapproche 3 points supplémentaires, donc maintenant ils sont à 9 points. On va devoir regarder un petit peu dans le rétro et surtout appuyer sur l'accélérateur pour garder les distances.
Pierre Sage, donc, ouais, regardez dans le rétro un petit peu, nous dit le coach Lensois. Je rappelle juste, évidemment, les 3 premières places sont qualificatives directement pour la Ligue des Champions. La 4e, vous devez passer par un barrage. Pascal, tu dis que Lens ne doit pas regarder derrière? Pourquoi? Ils ont de la marge suffisamment?
Oui, parce qu'ils ont de la marge. Ils n'ont que 6 matchs à disputer, et non pas 7 comme tu l'as dit tout à l'heure.
Bien sûr.
Donc c'est peu. Et ils ont, quoi qu'on en dise, on va attendre le match de ce soir, Monaco-Marseille qui promet, mais dans le pire des cas, ils auraient encore 7 points d'avance. De mon point de vue, ce serait une erreur que de regarder derrière. Mmh. C'est la meilleure manière de se prendre les pieds dans le tapis. Chaque fois que Lens, qui a été très constant cette saison, qui accomplit une saison remarquable, chaque fois que Lens a perdu, chaque fois ils se sont repris très vite, immédiatement. La dernière défaite en date avancée, celle d'hier, c'est Lorient. Et après Lorient, ils mettent 5 à 1 à Angers. Donc non, il faut simplement que Lens continue à être ce qu'il est depuis le début de la saison, à savoir un collectif admirable, une équipe qui avec des joueurs qui jouent les uns pour les autres, et se rappeler une dernière fois, parce qu'il reste 6 matchs, que chaque fois que ce collectif a été déficient, chaque fois qu'ils sont sortis de ce cadre-là, eh bien, ils ont explosé en vol. Ça a été le cas hier, où athlétiquement, techniquement, tactiquement, Lens a été broyé par les Lillois. Donc non, continuer comme ça, j'en veux pour preuve. Ils rejouent leur prochain match contre Toulouse. Ouais. Ils ont une double confrontation contre Toulouse en championnat, puis ensuite, quatre jours après,
en demi-finale,
demi-finale de coupe. Et mais vous rendez compte, ils ont 12 jours pour se ressourcer. 12 jours pour non pas oublier ce qui s'est passé hier, mais toujours pour se reconcentrer sur le sprint final.
Pascal, je parle au coach là, pour le coup, tu as écouté Pierre Sage il y a quelques instants. Tu es coach de Lens ce matin, tu as la place de Pierre Sage. Tu dis quoi? Tu dis, faut qu'on croit au titre même. Les gars, on n'a pas le droit de plus croire au titre.
Non, je pense, tu dis rien pour ce qui est du titre, parce qu'encore une fois, mathématiquement, c'est pas fait. Tu dis rien. Moi, je me permets juste une petite remarque. Tout ce que Pierre Sage a dit hier en conférence de presse, je l'aurais dit aujourd'hui aux joueurs. Jamais un seul instant, j'aurais dit, faut regarder dans le rétro, pour annoncer à la France entière que peut-être, je dis bien peut-être, c'est une supputation, Pierre Sage a un peu la trouille. Voilà, c'est la meilleure manière de mettre la trouille à tout le monde. Donc je leur ai dit aux joueurs, devant eux et devant aucun journaliste, bon les gars, il reste 6 matchs pour confirmer tout ce que vous faites de bien depuis le début de la saison.
Oui, tu veux dire que là on met trop, peut-être, il a peut-être trop mis le doigt sur la vigilance peut-être en conférence de presse derrière. Oui. Fred, toi tu dis que Lens doit regarder derrière.
Mais bien sûr, parce que déjà devant c'est plus la peine, c'est cuit, c'est fini, ils ne seront plus champions et c'est déjà une désillusion pour eux. Donc à partir de là, il faut se concentrer sur autre chose.
C'est pas une désillusion.
Parce que tu penses que dans le vestiaire, les joueurs...
C'est pas une désillusion quand tu es en position d'être champion, quand tu es devant...
Même si tu n'es pas programmé
pour, tu y crois. Et heureusement, parce que c'est ça qui fait la force d'un sportif au haut niveau, c'est que quand il est dans une position de pouvoir gagner, il a envie de gagner, il se voit gagner, il se voit...
Donc là, tu penses qu'ils ont pris un coup.
Déjà, ils ont pris un coup. Donc maintenant, le match de hier contre Lille, ils prennent un coup aussi sur la tête en se disant ce match-là, on s'est pris une méga rouste. Maintenant, ils ont en plus la Coupe de France où ils vont... qu'ils n'ont jamais gagné d'ailleurs, où ils vont être quasiment favoris de cette Coupe de France. Pour moi, ils sont favoris.
Il y a Strasbourg et Nice aussi.
En tout cas, ça y ressemble un petit peu. Imagine, ils perdent contre Strasbourg et Nice.
Contre Toulouse,
tu m'as embrouillé avec Strasbourg. Imagine, ils perdent contre Toulouse. Ben ça peut dans la tête te dire.
Oh, je voudrais pas que tu sois mon coach, toi. Tu fous la trouille, toi.
T'as raté le championnat.
Attends, il est pas coach, Fred, il a raison.
Mais il fout la trouille. Tu es joueur. Justement, en tant que joueur, toi, tu sais comment j'aimerais.
Toi, tu dis. En 5 jours.
Donc, ça veut dire que.
Toi, tu dis l'effondrement est possible.
Imagine, tu viens perdre l'opportunité d'être champion de France.
Là, t'as 10 jours pour gamberger aussi.
T'as 10 jours pour y penser, pour réfléchir, pour dire, il faut que tu remettes tout sur la Coupe de France. Parce que tu l'as jamais gagné et ça serait un titre majeur. Tu vas à la Coupe de France, tu perds la Coupe de France. Tu perds contre tout le monde. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu sais tu comment? En plus, quand tu dis que les mecs derrière sont en
Ligue 1, c'est une déception?
Non!
C'est une mauvaise saison que d'être qualifié directement en Ligue des Champions?
Alors déjà, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, Pascal. Je sais que tu interprètes, tu aimes bien interpréter, mais c'est pas du tout ce que je dis. C'est justement, c'est tellement une belle saison que finalement se retrouver avec rien, alors que t'étais à deux doigts d'être champion et
Combien de temps ils ont été devant? Ils ont été sur la première partie de saison.
Il y a pas si longtemps que ça.
Oui.
Ils ont gambergé, bien sûr qu'ils ils ont pensé au titre, et bien sûr que c'est une désillusion pour eux, pour les joueurs, et heureusement. Sarah. Parce qu'on vise l'excellence, Sarah. Ouais, on n'est pas comme toi, on fait pas du tennis, et on veut gagner. On en a marre des gens qui perdent, et on en parlera plus tard du tennis, où on gagne jamais.
En fait, non, mais Fred, je vous explique le Fred là. Le Fred, déjà, oui. Il se dit 9h20, je vais agiter un peu le cocotier, ouais. Et puis je vais dire, on vise l'excellence pour également mettre une pièce dans le David Douillet qui va arriver dans un instant,
oui. Parce qu'il
va
adorer ce que j'ai dit. Est-ce que je peux dire ce qui se passait avant qu'on prenne l'antenne, il dit. Comment ça va, Sarah? T'es bien toi? Parce que moi, je suis moyen.
Tu vois, c'est ça que ça donne quand je suis moyen. Voilà le problème.
Fred, c'est l'anti-diesel.
Tu endors tout le monde. Non, moi, je suis du point de vue de Pascal, de dire qu'il n'y a pas de raison de regarder derrière, qu'il faut rester sur le moment présent. Lens, oui, fait une saison extraordinaire compte tenu de leur effectif, compte tenu de leur budget, mais on ne va pas revenir dessus. Oui, il y a eu un couac hier, mais il y a eu quelques couacs dans la saison de Lens cette année. Pour autant, ils n'ont jamais enchaîné de défaites de suite. Et derrière, le gros couac qui a été celui face à Monaco, où ils menaient 2-0 et ils ont pris 3 buts, et on s'est dit, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe du côté
mais
de Lens?
Sur les 6 derniers matchs en Ligue 1, il y a 4 matchs sans victoire.
Oui, mais ils sont capables de tenir.
Et ils sont dans un. Ça, c'est ce que tu crois.
Ils sont dans un territoire inconnu là, hein, les Lensois.
Mais ils sont dans un. Mais non, ils ont déjà été. Il y a quelques années, ils ont déjà été titillés le PSG.
Mais il y a quelques années, les joueurs ont changé, ça a évolué. Mais tu peux pas parler du. En fait, les clubs professionnels de sport collectif, c'est la vie de ces clubs où ça change sans arrêt. Il y a tellement de brassages qu'ils savent pas où ils en sont. En fait,
mais si,
c'est nouveau.
Ils savent très bien où ils en sont. Il y a deux matchs face à tout. Toulouse à domicile. Ils n'ont jamais enchaîné 2 défaites de suite. Moi, je pense que Lens va continuer son petit bonhomme de chemin. Et j'ai été regarder les prochains adversaires de Lens. Pardon, alors Toulouse, après, ils jouent Brest, ils jouent Nice, ils jouent Nantes.
Nice et Nantes qui jouent le maintien.
Et après, il y aura Lyon et PSG.
Il n'y a que le PSG. Le dernier match, c'est face au PSG.
Ils finissent par Lyon, ça sera fait déjà. Ils ont minimum 7 points d'avance. Fred Weiss, fais un peu de mathématiques.
Ben justement.
7 points d'avance.
David.
2 matchs et demi d'avance.
Monsieur Dupras, sur Gardou alors.
David, l'homme de l'excellence. L'excellence incarnée.
Oui, c'est ça. Surtout en foot. Déjà, moi, il y a un truc. Psychologiquement, faut pas perdre de vue qu'ils ont perdu un derby. Ça, c'est une double peine. C'est-à-dire que tu perds un match, mais c'est le derby.
Il avait gagné à domicile 3-0 aussi.
Oui, mais là, on est dans la fin de saison quand ça compte.
Là, on vit pas dans le passé, Sarah. On est dans le présent et dans le futur.
Vous êtes dans le futur tous les deux.
Tu prends un coup derrière la casquette déjà, un bon coup derrière la casquette. Ensuite, tu perds des points. Deuxième coup derrière la casquette. Puis, si je ne m'abuse, le PSG a un match en retard, il me semble, non?
Contre Nantes, effectivement.
Oui.
Voilà. Donc, 4 plus. Si le PSG gagne 3, ils prennent 7 points dans la vue. Déjà. D'emblée.
Oui, mais c'est fini pour le titre.
Et moi, je pense, je suis d'accord avec Fred, et je pense que je vais faire une analogie avec la F1. Tu vois, des fois, t'es calé derrière une voiture que tu veux doubler, sauf que tu regardes pas dans le rétro, et derrière, t'en as 2 autres. Et au moment où tu veux doubler, bah, t'y arrives pas, et les 2 autres te doublent derrière. C'est exactement ce qui pourrait se passer.
Bah,
et
moi,
c'est
très dangereux. Donc,
vaut mieux assurer, compte tenu de l'état psychologique de l'équipe, vaut mieux bien regarder dans le rétro, assurer la place, la qualif pour la Ligue des Champions, et puis surtout, arrêter de se gratter la tête pour aller chercher le titre, parce que ça va être compliqué, ça va être très compliqué.
Mais je suis d'accord avec toi, David, de ne pas regarder derrière, mais c'est pas pour autant qu'il faut avoir peur de ce qui se passe derrière.
Attends,
moi, quand on dit regarder derrière,
j'ai pas dit qu'il fallait avoir peur.
J'ai pas dit qu'il fallait avoir peur.
La question, c'est est-ce qu'il faut regarder derrière? Moi, je dis oui, parce qu'il faut assurer la place en Ligue des Champions.
Quand ils regardent derrière, il n'y a personne dans le rétro. Ils ont 9 points d'avance aujourd'hui.
Ils peuvent en avoir que 7 à peu près autant qu'un contre PSG.
Toute la ligne droite d'avance. 9 points d'avance.
Ils sont entre la première place et ceux qui sont juste derrière. Bah oui.
Regarder derrière, c'est tenir le rythme, c'est tenir le niveau, alors, tu vois. Parce que si tu te relâches, c'est encore pire. C'est ça que je veux dire.
Alors David, Pascal, c'est la première fois de ma vie que tu me déçois. Toi, David Douillet. La première fois. C'est pas Fred Weiss. Hein. Fred Weiss, il me déçoit depuis longtemps.
Mais c'est la
première fois. Mais vous êtes des sportifs.
Non, mais parce que j'aime Lens et j'ai envie de les voir en Ligue des Champions.
Mais après une défaite, un sportif de haut niveau se remet en question, se reconcentre. Ça va être le cas de Lens.
Pascal.
C'est
c'est la meilleure chose qui puisse leur être arrivée pour c'est aller au bout en Coupe de France.
On va parler...
pour être deuxième en championnat, ce qui sera une saison exceptionnelle.
Ah, ça, c'est déjà une saison exceptionnelle. On va parler dans un instant des attitudes peut-être du côté de Lens. C'est peut-être pour ça que Pierre Sage a évoqué cette vigilance à regarder derrière. Et d'ailleurs, Lens qui a des blessés aussi, hein, il manque des joueurs importants en défense notamment. Ça a une importance pour le club lensois. Mais d'abord, les amis. C'est le moment pour vous de vivre l'expérience RMC et gagner vos places pour PSG Liverpool ce mercredi au Parc des Princes. Vous avez 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16. PSG au 7-32-16. On vous accueille justement, vous, au 32-16, pour débattre avec nous, avec vos grandes gueules du sport, dans un instant, pour continuer à parler de Lens. Est-ce qu'il faut regarder derrière? On va parler de la course au podium aussi avec un alléchant Monaco-Marseille ce soir, 20h45 sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilineau.
Les grandes gueules du sport. On parle de Lens, la défaite hier dans le derby du Nord, 3-0 les Lensois, à 4 longueurs du PSG désormais en tête du championnat. Les Parisiens avec un match en moins, alors que les Lensois ont encore 6 matchs à jouer en Ligue 1. On est au cœur de cette 28e journée. Tiens, je vous rappelle juste le programme de cette journée à suivre sur RMC. Angers-Lyon 15h, Metz-Nantes 17h15, Le Havre-Auxerre. Oui, il va être important celui-là aussi. Ces deux matchs vont être importants pour le maintien. Lorient-Paris FC et 20h45, donc Monaco-Marseille. La course au podium bat son plein. On continue de parler de Lens, donc est-ce que les Lensois doivent regarder derrière désormais? Ils sont à 9 points les Lensois, Marseille peut revenir à 7 en cas de succès ce soir. Tiens, je voudrais vous écouter au 32-16, supporter Lensois, on accueille Dominique qui est avec nous dans les grandes gueules du sport. Salut Dominique.
Salut les grandes gueules, puis je vous souhaite un bon week-end de Pâques déjà.
Merci, toi aussi. Salut, Dominique.
Je suis dans le soleil, en plein soleil, avec une famille de ch'tis. Alors, vous voyez,
tout à fait. C'est pas mal. Bon, ben, voilà. Et du coup, vous êtes
soleil et ch'tis, vraiment.
Ch'tis au soleil, quoi.
Ch'tis au soleil, c'est vrai.
Mathieu, on est en plein soleil, là, Mathieu, et je te jure qu'on a pris une gueule.
Bilou, calme-toi.
On vous adore, les auditeurs de grande gueule du sport, on vous adore, sachez-le. Dominique, tiens, vous êtes comment, là, avec la famille ce matin après la défaite 3-0 de Lens? Vous dites qu'il faut regarder derrière désormais, ou pas?
Oui. C'est même pas le fait de regarder derrière. Je veux dire, on faut déjà regarder le parcours que Lens a fait. En début de saison, on n'aurait jamais pensé qu'il serait second. Donc là, je pense qu'il faut maintenir le cap pour essayer de rester second, faire la Champions League. Et puis après, il y a un autre challenge qui arrive, hein, c'est la Coupe de France. Hein.
Exactement, oui.
Il n'y a pas photo, hein, je crois que maintenant, il faut regarder devant, justement, regarder devant avec la Coupe de France. Et puis le championnat, on se maintient à la seconde place. Il n'y aura pas de honte de rester de second, hein, derrière le PSG. Hein.
Ça sera une magnifique saison, quoi qu'il arrive.
Hein. Bien sûr. Ah non, mais là, de toute façon, on est tous d'accord, on n'est pas du tout en train de dire, effectivement, si Lens finit 3e ou 4e, c'est un échec. Alors, même si, évidemment, si vous chutez hors du podium, du podium, ce sera quand même.
Fred et David sont en train de laisser entendre ça, quand même.
Non, Fred et David disent attention.
Ils sont en train de laisser entendre que Lens doit avoir
rétablissement de la vérité.
Laissez-moi.
Pardon.
C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit que pour le commun des mortels extérieur à là-bas, évidemment que ça sera une superbe saison, une magnifique saison. Sauf que j'essaie de.
Oui, mais toi, tu commençais ton propos par ça.
Oui, mais déjà, si tu me laissais parler, je pourrais terminer mes propos, moi. Si tu pouvais me laisser terminer.
La saison de Lens est déjà exceptionnelle.
Ben,
ça ne veut pas dire que tu ne vas pas toucher les étoiles, mais il faut remettre la photographie aujourd'hui, c'est que Lens fait une saison exceptionnelle.
Oui, donc ce n'est pas parce que tu répètes 4 fois la même chose que c'est hyper intéressant. Donc ça ne l'était pas du tout. Donc juste pour revenir à ce qu'on disait, depuis le début avec David, on a conscience que ce qu'il est en train de faire Lens, c'est magnifique, c'est formidable, c'est incroyable. Sauf que on essaie d'expliquer pour les sportifs de haut niveau, voire de très haut niveau, que quand on arrive à ce stade de la compétition et qu'on est dans les premières places, quand on est devant le PSG, eh ben on se prend à y croire. Et donc forcément, en tant que sportif de haut niveau, ça te met un petit coup d'arrêt. C'est tout ce que j'essaie d'expliquer. Et je n'ai pas répété 12 fois la même phrase, tu vois.
On peut faire en tant que sportif de haut niveau,
de très haut
c'est
niveau.
Incroyable et incompréhensible que vous flippiez au point de vouloir absolument regarder derrière à la première défaite subie.
Tiens,
franchement, je veux pas regarder devant, non.
La mauvaise foi de Pascal.
Je veux qu'on entende. Il n'y a jamais de mauvaise foi dans cette émission. J'invite tous les auditeurs à écouter l'émission en podcast notamment. Trouvez la mauvaise foi et on s'appelle. Tiens, je voudrais qu'on écoute Pierre Sage. Encore une fois, l'entraîneur.
Qui porte bien son nom, lui.
Hier, hier, personne ne l'a jamais faite, celle-là.
Non, non, mais ce que je veux dire, c'est important de se rendre compte que lui, il dit les vérités.
Mais pourquoi tu cries?
Ben parce que ça m'a rendu fou, ce que m'a dit Sarah.
Il est fou, ce mec. On a écouté Pierre Sage sur les attitudes hier.
Non, et je m'associe aussi à cette faillite-là. Et ce serait trop facile de tirer sur les joueurs quand tout va mal, alors que d'habitude, la relation avec eux se passe très bien. Après, je vous avoue qu'il y a certaines attitudes dans mon déplu ce soir. Je pense que par moments, on s'est abandonné. C'est ce que je leur ai dit dans le vestiaire. Je leur ai dit, j'ai un sentiment de honte ce soir, mais vous pouvez compter sur moi pour toujours rester solidaire avec l'équipe. Et ce genre de comportement, il va falloir qu'on les bannisse puisque ça ne nous ressemble pas. On n'a pas le droit de s'abandonner dans un match aussi important, bien sûr, mais aussi pour la suite du championnat et de la Coupe de France.
Et oui, pour la suite. Non mais David, est-ce que c'est quand même important d'être lucide quand on est entraîneur par rapport à son équipe? On n'a pas été bon. Moi, le premier. On peut avoir honte de ce qu'on a fait, mais je suis solidaire avec vous. Enfin, est-ce que le discours est bon pour être vigilant? En fait, parce qu'en fait, ce qu'il appelle, c'est à la vigilance, c'est pas à la peur. Et je pense que vous aussi,
évidemment. David.
Ouais, c'est moi ce que j'entends dans ces propos, c'est de la vigilance et aussi de la lucidité et qu'il y a une suite. Parce que si tu commences à leur taper sur la tête, vous étiez pas là, vous êtes plus motivé, etc., etc.
Oui, tu ne balances que du négatif. Toi-même, entraîneur,
et là, tu les tues. Ouais, tu les tues. Donc c'est surtout pas le discours. Alors il faut dire la vérité parce qu'il y a que la vérité, il y a que sur la vérité que tu peux construire et bien construire, parce qu'il s'agit pas d'être complètement en dehors des clous, en dehors de ce qui se passe. Mais il faut dire les choses. Et j'ai l'impression quand même que il faisait un bilan où les gars, vous êtes en train de vous relâcher vous savez que vous avez fait une belle saison, vous êtes sur le podium. Attention, c'est pas fini.
Mais oui, c'est ça. Est-ce qu'il perçoit pas Pascal et Sarah, est-ce qu'il perçoit pas Pierre Sage un essoufflement, un relâchement? Il dit attention.
Mais c'est normal aussi. La saison est longue. Il joue sur deux tableaux, la Ligue 1 et la Coupe de France, comme le disait Fred, qui n'a jamais été gagné par Lens. Donc oui, ils sont en train de courir deux chevaux.
C'est pas normal.
Oui, enfin, on peut dire que c'est pas normal.
Non, non.
Mais c'est la réaction qui va être importante. C'est la réaction la semaine prochaine qui va être importante face à Toulouse.
Je suis pas d'accord avec toi. Ils doivent. Mais quand tu mets les gaz dans un avion, si tu baisses les gaz, tu descends d'altitude. Hein, c'est clair. Hein. C'est réglé. Hein. Et là, ils ont réduit les gaz. Il faut que les gaz les maintiennent. C'est tout. Hein.
Mais c'est pas normal de réduire les gaz. C'est pas juste vous. Peut-être pas uniquement l'investissement que Pierre Sage dénonce.
C'est quoi?
C'est peut-être aussi le non-respect des consignes. Lui seul le sait. Parce qu'il a dit quelques attitudes ne m'ont pas plu. Je m'associe aux joueurs. Bon, faut remettre dans le contexte. C'est la conférence d'après-match, c'est la seule intervention du coach où vous pouvez être certain que tous les joueurs en prennent compte.
Ah oui, c'est vrai.
Ils l'écoutent. Vous pouvez leur parler pendant 10 minutes face à face, c'est pas certain que tout le monde vous écoute. Mais là, ce que vous dites des joueurs au grand public, là, ils sont très vigilants. Donc, les messages que l'on fait passer en conf de presse d'après-match, ils sont importants.
Non, mais alors, du coup, Pascal, c'est pas neutre. Les mots.
Mais en fait, il veut simplement s'associer à eux, dire, il faut être vigilant. Oui, je le reconnais. Il faut être vigilant.
Merci d'être venu.
Être vigilant, ça veut pas dire être mort de trouille.
Ça veut pas dire d'avoir peur de ce qui se passe derrière. En fait,
c'est pas du tout. À aucun moment on a dit qu'il fallait avoir peur. On a dit qu'il fallait être vigilant.
Tu regardes dans le rétro.
Parce que quitte à regarder quelque part, il vaut mieux regarder dans le rétro et se dire, il faut pas qu'il revienne sur nous parce que notre deuxième place, on la mérite.
Mais toi, t'as encore. Alors,
tu te concentres sur toi et tu regardes aussi un peu les résultats des autres. Je suis désolé parce que pour Pascal, c'est pas magnifique. Il faut aussi voir tout.
3, t'as 18 points.
J'aimerais revenir sur un truc qui me fait un peu froid dans le dos. Tu me dis que les joueurs n'écoutent pas forcément pleinement le coach ou l'entraîneur quand tu les as dans les yeux dans
mais
les yeux.
Parce que tu les as tellement de fois, tellement tu rapproches tellement de choses. T'es pas certain que les 35 joueurs de ton effectif t'écoutent tous de la même manière, avec la même conviction tous les jours de toute la saison. C'est ce que je voulais dire.
C'est
par contre
la prise de parole en public est différente.
La conf d'après match, parce que c'est une prise de parole en public,
logique. Là, crois-moi, ils sont extrêmement attentifs à ce que tu dis.
Mmh, oui, bien sûr, parce que là, c'est ce qui est dit sur eux, auprès de l'extérieur.
Oui, mais voilà, est-ce que c'est pas intéressant d'analyser quand même ce qui est dit sur eux? Donc, s'ils veulent passer les messages, ça veut dire qu'ils sentent un relâchement, ils commencent à s'inquiéter un petit peu du relâchement de ces joueurs.
Fred, ils veulent les remettre dans le droit chemin. 3-0, un derby, tu veux qu'ils disent quoi d'autre?
Eh bien, donc on est d'accord, Pascal, maintenant, il faut se concentrer, continuer à être sérieux, regarder dans le rétro et maintenir cette seconde place qui serait un aboutissement extraordinaire pour cette magnifique équipe de Lens. Et en plus, après la Coupe de France, à aller gagner.
Juste, Pascal, pour terminer là-dessus, quand tu es entraîneur, je me mets à la place de Pierre Sage. Tu sens parfois quand l'équipe, elle lâche un peu, mentalement, physiquement, quand il y a un truc qui change. Non, mais ça t'est arrivé d'avoir des moments comme ça où tu dis, ah là, il va falloir que je dise un truc un peu électrique, parce que sinon...
Bien sûr.
Ça peut mal finir.
Mais en fait, je pense que Pierre Sage,
il sait... Ça s'appelle la coupe
de cul, hein. Oui, voilà. Pierre Sage, il sait, depuis la défaite à domicile contre Monaco, alors qu'il mène 2-0, Pierre Sage, il sait que son équipe est tout d'un coup moins bien en difficulté. Donc la force collective a fait qu'ils ont gagné ensuite quelques matchs pour qu'ils se situent là où ils sont à l'heure actuelle. Mais cette équipe, elle a donné quand même toute la saison. Donc elle est peut-être un peu émoussée. Et la période qui lui est proposée, à savoir ces 12 jours avant le prochain match de championnat contre Toulouse, du fait du report du match contre le Paris Saint-Germain, cette période-là, elle est cruciale pour la suite. Cruciale pour que Lens termine second de Ligue 1 et dispute une finale de Coupe de France.
Lens, deuxième donc à 4 points de Paris qui a un match en moins. Donc ils peuvent avoir 7 points d'avance, les Parisiens, s'ils battent Nantes dans leur match en retard. Et donc Lille est désormais troisième. Marseille joue ce soir à Monaco. Marseille qui, en cas de succès à Monaco, peut revenir donc à 7 points des Lensois, ou en cas de succès monégasque. D'ailleurs, Monaco peut revenir à hauteur de Marseille. Là, on a une grosse course au titre, au podium surtout, avec Lyon 5e, avec Rennes qui est revenu également, programme du jour. Justement, Angers-Lyon 15h, Metz-Nantes, ça c'est important pour le maintien, 17h15 dans le multi, comme Le Havre-Auxerre, Lorient-Paris-FC, et donc Monaco-Marseille ce soir, 20h45. Tout ceci à suivre évidemment sur RMC. Je remercie Dominique, supporter à Lensois, d'être venu au 32-16 et lui invite à passer une belle journée au soleil, tout simplement, dans ce week-end de Pâques. Profitez tous ensemble et on espère que vous vous réveillez tranquillement en écoutant la douce voix de Fred Weiss, notamment. Allez, tout de suite dans le zapping sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Fred Weiss, avec David Douillet, Sarah Pitkowski et Pascal Duprat dans un instant sur le ring des GG. On va parler justement d'un combat de boxe sur des monts pavés aujourd'hui. C'est le Tour des Flandres, 110e édition, avec Pogacar, Van Der Poel, Van Aert et Evenepoel. Croyez-vous à la guerre des étoiles sur le Tour des Flandres, que vous vivrez évidemment en direct et en fil rouge sur RMC toute la journée. On sera sur place dans un instant et on attend vos réponses sur le compte X des grandes gueules du sport. Tout de suite, le zapping.
RMC. Des grandes gueules du sport.
Tiens, on va commencer par une performance sensationnelle. Je m'en fous pas, les GG, la performance folle de notre championne olympique de triathlon, Cassandre Beaugrand, qui a battu le record de France du 10 km. Sarah.
Non, je m'en fous pas du tout.
Pascal.
Je m'en fous pas.
David.
J'adore.
Fred.
J'ai envie d'être d'accord avec Sarah pour une fois, donc je m'en fous pas.
C'est une belle raison.
C'est une belle raison.
Ouais. C'était hier à l'Urban Trail de Lille. Bah, c'était avant le derby. Avec son chrono exceptionnel de 30 minutes et 52 secondes, la Française est la première tricolore à passer sous la barre des 31 minutes. Elle améliore de 8 secondes le précédent record national et de 20 secondes son propre meilleur temps. La semaine dernière, je vous rappelle qu'Cassandre Beaugrand avait indiqué avoir vécu une année post-JO un peu compliquée. En triathlon, elle avait en fait envie de se faire plaisir sur la course à pied.
C'est bien sa plaisir. Discipline, la course à pied, c'est là où elle fait la différence en triathlon et on l'a vu au jeu. C'est là où vraiment c'est parmi les trois disciplines, c'est là où elle est vraiment meilleure. Mais
elle a le record de France du 5 km aussi.
C'est fantastique et puis c'est une athlète qui semble très 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 timide, très réservée et on a eu que quelques brides de Cassandre Beaugrand depuis sa médaille olympique et c'est chouette qu'elle revienne au sport et qu'elle retrouve un peu d'allant et d'envie. Parce qu'on sait que c'est pas évident. Enfin, on sait. Je parle pas connaissance de cause.
Je peux pas t'aider là, ça.
Mais il semblerait, et c'est pas la première fois que après, quand tu touches ton rêve du doigt et le Graal, que c'est pas si évident que ça d'assumer une médaille. Peut-être que David pourra nous le dire, mais la médaille d'or olympique, c'est pas évident après de retrouver l'envie.
Ah, David, c'est compliqué, ouais. Toi, tu as dit j'adore. Ah ouais, c'est compliqué.
Non, mais oui, c'est compliqué. Ben, quand tu touches le sommet, après, pour te remettre en selle, pour refaire encore un parcours qui vient t'amener encore sur une nouvelle médaille d'or olympique, c'est pas simple, c'est long, c'est 4 ans. Donc, t'as intérêt de trouver un peu de condiment pour épicer ces 4 années à trouver une énergie pour se remettre en question, tout simplement.
David, moi, j'ai une question pour toi.
Le triathlon est génial pour ça, parce que tu peux ventiler sur 3 disciplines, et comme le disait Sarah, c'est sa discipline de prédilection. Ce qu'elle fait, c'est hors norme, quoi. Ah. Tu vois, elle est dans 2 sports, bon, même s'il y en a un qui est commun au sien, mais c'est fabuleux. Fantastique.
Moi, j'ai une question.
C'est tout bénef pour elle, quoi.
David, ouais. J'ai une question pour toi. À l'époque, c'était pas très visible, le MMA. Mais est-ce qu'à notre époque, si t'avais été médaillé olympique, est-ce que t'aurais pu enchaîner sur du MMA, particulièrement pour faire un autre sport?
Bah, ça, c'est intéressant, ça, tiens.
Bah, tu sais, moi, en fait, avant de faire du judo, j'aurais adoré être boxeur. Ça s'est pas fait pour 1000 raisons. Et puis, on s'en fiche. Mais sincèrement, ça m'aurait attiré vraiment. Sauf que t'es dans un sport où, le MMA, là, pour le coup, c'est comme si moi, j'étais, coureur de 10 000, coureur de fond, et que je m'inscrivais en triathlon. Il faudrait que j'apprenne à nager et à faire du vélo. Donc, c'est différent d'aller dans l'autre sens, tu vois.
Ouais, j'imagine. Mais ça aurait été compliqué, tu vois, parce que justement.
Oui, c'est un truc qui m'aurait peut-être tenté, oui, effectivement.
Oh là, t'imagines d'être douillé dans la cage?
Moi, j'aurais adoré. Je l'aurais pris sur le jeu vidéo, ouais, à chaque fois.
Heureusement que tu dis sur le jeu vidéo. Ouais,
en vrai, il m'aurait massacré.
Dans le vestiaire, tout à l'heure, on va se demander justement est-ce qu'il est essentiel de s'inspirer ou de pratiquer un autre sport que le sien. Et puis, je précise aussi, hein, que notre champion du monde, ouais, du 10 000 mètres, Jimmy Gressier, a battu le record d'Europe sur le 5 km. Il était à 2 secondes du record du monde. Hein. C'est grâce à David, certainement. Parce que il a dit,
ouais, exactement, c'était son propre record, hein, je crois.
Ouais, exactement. Ouais, donc,
non, mais par contre, lui, il présente pas.
Images, mais c'est hallucinant la vitesse, la fréquence qu'il a au sol,
et même à l'arrivée. Il est soufflé, mais ça, ouais, il a l'air d'être frais encore. Ouais. Tu vois, vraiment, c'est incroyable.
Ah, il faudrait qu'il vienne nous voir, Jimmy Gressier, un jour justement, comme ça on referait en plus les rencontres avec David. On pourrait parler de motivation, tiens.
Ça être vraiment pas mal.
Ouais. Ah bah ouais, tiens, on va voir ce qu'on peut faire pour essayer de le faire venir. Ce serait super, et je pense qu'il en est une de grande.
Mais surtout s'il veut se battre avec David, je tiendrai avec Jimmy, moi. Ouais. Je l'aiderai.
Allez, on zappe, les amis. Je m'en fous pas. Luis Enrique sera bientôt le plus gros salaire du PSG. Pascal.
Je m'en fous pas.
Fred.
Je m'en fous pas.
David.
Je m'en fous pas.
Sarah.
Bah, je m'en fous pas non plus.
Alors, selon nos confrères de l'équipe, vous savez, la fameuse édition où on a tous les salaires, le coach parisien touche aujourd'hui 1 million d'euros brut mensuel, loin devant celui qui est deuxième en Ligue 1, le coach de l'OL, Paulo Fonseca. Luis Enrique est en discussion en plus en ce moment pour prolonger son contrat de 3 ans, ce qui lui permettrait, avec environ 20 millions d'euros brut par an, de devenir le plus gros salaire du PSG devant Ousmane Dembélé aujourd'hui. Tiens, il en a parlé, Luis Enrique, cette semaine. Il a dit, c'est beau pour moi, tout simplement. Voilà. C'est comme ça. Non, mais c'est vrai, voilà, sans rentrer dans les détails. Pascal, qu'est-ce que tu en penses, tiens? L'entraîneur le mieux payé du vestiaire devant les joueurs?
Oui, je trouve que c'est normal. C'est plutôt une incongruité. Il y a des corporations comme ça où le boss est moins bien payé que ses employés ou ses subalternes. Donc, le foot en est un exemple frappant. C'est souvent le cas où le salaire de l'entraîneur se situe dans une fourchette moyenne entre tous les salaires. Donc, non, c'est bien. Ça devrait être tout le temps la même chose.
D'accord.
Je suis pas d'accord.
Je précise que Pascal est largement le mieux payé de nous tous. Nous, ça marche déjà. Ouais,
Moi, je suis à 100% d'accord. Moi, j'ai joué pour un coach qui s'appelle Bojidar Maković, qui disait de toute façon, ce sera moi le mieux payé. C'est-à-dire quand un nouvel américain arrivait, il disait, ok, je prends 1 000 euros de plus. Ouais. Histoire de dire
en France, on avait Giroud qui disait ça.
Mais moi, je trouve ça hyper intéressant parce que je suis d'accord avec Pascal. C'est difficile pour un patron, entre guillemets, d'être moins bien payé que son employé ou en tous les cas quelqu'un qui est sous ses ordres. Et moi, j'aime l'idée que le patron gagne plus. Parce que c'est lui qui a plus de pression et c'est lui qui sautera le plus rapidement.
Tu es pas d'accord, David?
Non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord parce que. ça gêne que le metteur en scène soit plus payé que les artistes. Voilà, c'est ça le truc. Les gars sont sur le terrain, ils ont une carrière qui est extrêmement courte. Donc un entraîneur, il peut être entraîneur très longtemps. Donc voilà, le court terme du haut niveau en termes de revenus m'oblige à dire que un athlète doit, enfin pour moi, doit gagner plus que son entraîneur, parce que à moins qu'il devienne entraîneur plus tard, et là c'est une autre histoire, c'est un autre débat, mais en tout cas voilà, le temps est tellement court que, et puis c'est les principaux acteurs. S'ils sont pas là, il y a pas la belle pièce de théâtre.
Ouais,
y a
mais,
pas le,
mais David, tu es d'accord bougie, que quoi. T'es d'accord que l'entraîneur, c'est celui.
S'il y a pas de
metteur
en scène, il y a pas de pièce de théâtre non plus.
Est-ce que DiCaprio est mieux payé que Scorsese?
Je sais,
mais l'entraîneur, c'est lui qui est sur un siège éjectable.
Mais c'est lui qui a le plus,
plus
compliqué dans
le
temps, mais
les vraiment les coachs.
Non, c'est pas un argument. Les athlètes aussi, vous le savez bien. C'est pas vrai, ça.
Ouais, mais en fait, tu mets pas un joueur dehors comme ça,
Mais si, tu le fais plus jouer, puis c'est fini.
Oui, bah, vas-y, oui, mais bon, tu le fais plus jouer, mais tu le payes pas de son salaire.
Il y a les intérêts économiques. Moi, je parle de en football, c'est difficile de ne pas faire jouer.
Non, mais je pense que j'ai raison. Là, franchement, vous avez tous tort. J'ai raison. L'athlète, il a une courte vie professionnelle. Il doit être mieux payé. Ouais. Point barre. Voilà, il n'y a pas de débat.
Juste un truc. David, bon, apparemment, c'est celui qui a le plus grand palmarès. J'aimerais bien qu'il soit moins bien payé que nous, finalement.
J'étais moins bien payé.
Allez, on zappe.
J'ai touché beaucoup moins d'argent que toi, mon Fred.
Mais on aura l'occasion d'en parler, je pense, que c'est un vrai sujet de fond, ça, pour le coup. Je m'en fous pas.
Il est quand même loin des autres entraîneurs des très gros clubs en Europe, pour même, juste pour remettre.
Pas des très grands clubs en Europe, mais
Simeone est à près de 30 millions par an, et il toucherait environ 20. Lucien, pas mal.
Non, mais franchement, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Le mec, il touche une patate par mois, mais c'est monstrueux. Vous êtes fous, quoi.
Hasard, depuis qu'il est là, il y a une ligue des champions.
Oh là là.
Je m'en fous pas. Le tennis doit se réinventer, sinon les plus jeunes vont s'en désintéresser. Alerte Patrick Mouratoglou. Sarah?
Ouais, je m'en fous pas. Même si je suis pas tout à fait d'accord.
Fred?
Je m'en fous pas.
David?
Ouais, je m'en fous pas.
Pascal?
Non, je m'en fous pas.
Tiens, très rapidement, le célèbre entraîneur de tennis organisait pour la 6e fois son Ultimate Tennis Showdown dans les arènes de Nîmes. C'est en fait un mini tournoi avec des formats courts, des matchs de 45 minutes. C'est pas des 7, c'est 4 cartons de 8 minutes. Il y avait du fun, des stars, 3 millions de prize money surtout. Il faut faire ça pour dépoussiérer le tennis, nous dit Patrick Mouratoglou.
Le sport moderne, c'est un show. Ce n'est pas du tout une insulte de dire que c'est un show. Ça doit l'être. Il faut simplement vivre, créer des produits qui sont des produits qui doivent exister dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Le tennis, c'est le monde d'hier. Le format n'a jamais été modifié depuis, ou alors vraiment à la marge. Et les modes de consommation des gens ont totalement changé, totalement. Depuis les réseaux sociaux, les plateformes de streaming, les jeux vidéo, les moins de 30 ans ne consomment pas. D'ailleurs, même les joueurs. J'ai demandé à tous les joueurs, est-ce que vous regardez le tennis? Les joueurs professionnels, 100% m'a dit, jamais, c'est beaucoup trop long. Parce que le produit n'est pas adapté, tout simplement. Il est très, encore une fois, il est adapté à nous, à moi. Mais pas à moins de 30 ans.
Il faut l'écouter, Patrick Mouratoglou, ça?
Bon, il faut entendre, puisque ça fait effectivement plusieurs années qu'il a lancé ce format d'entertainment. Cependant, je ne pense pas que ce format-là puisse changer à terme le format du tennis. Je pense qu'il y a. Les deux peuvent coexister. Après, qu'il y ait des ajustements à faire dans le tennis. Mais un grand chelem restera un grand chelem. Le 5-7 restera un scénario incroyable, quoi qu'il arrive.
Plutôt en complément, en fait. Comme on a la Kings League dans le foot.
Oui, mais tu remplaceras pas. Après, qu'il y ait peut-être moins de tournois et qu'on mette plus de formats un peu entertainment dans ces exhibitions-là, oui. Mais de là à remplacer complètement le tennis. D'ailleurs, il n'y a pas d'équité dans ce genre d'entertainment. On est là où les spectateurs peuvent interpeller le joueur. Le joueur peut parler à son coach avec un casque. Enfin, on n'est plus dans le sport.
Il y a en plein milieu d'un échange, ça a chanté Claude François.
Comme on disait avec Marc Madiot hier, il faut que ça reste du tennis. Il faut quand même garder les bases du tennis.
Surtout les anciens spectateurs aussi.
Moi je verrais bien. Moi je verrais bien un match NBA avec du Claude François en fond. C'est quoi le problème? Non.
Moi pas.
Comme comme d'habitude. Et bam,
Pascal vient de
Pascal vient de le lundi au soleil.
Wembanyama. Allez, on va parler dans un instant justement de Wemby. Est-ce qu'il commence à dépasser le cadre du basket? Mais on va surtout parler du All-Star Game à venir aujourd'hui. Mais c'est en cyclisme. Le Tour des Flandres, toutes les stars sont là. Croyez-vous à la guerre des étoiles? On vous attend au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.